La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art. Bonjour et bienvenue dans cette 44e émission de la Semaine de l'Art, où j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Bondil, directrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui va nous raconter comment, de la France, on devient conservateur d'un des grands musées nord-américains. Bonjour Nathalie.
Bonjour Didier Reichner, c'est un plaisir d'être ici.
Eh bien, c'est un plaisir partagé. Pouvez-vous nous retracer votre parcours des musées français au Canada ?
C'est un parcours assez simple, dans la mesure où, effectivement, en France, j'ai passé le concours pour devenir conservateur d'État, ce qui m'a ensuite permis d'intégrer à l'époque ce qui était le Musée national des monuments français, devenu aujourd'hui la Cité de l'architecture. Et ensuite, donc après ce passage, j'ai été embauchée pour être conservateur du 19e siècle, puis devenir le bras droit du directeur à l'époque, Guy Cocheval, du Musée des Beaux-Arts de Montréal.
Donc alors, ça, c'est de manière très accélérée votre parcours, voilà. Mais commençons par le Musée des Monuments français. Ce musée qui conserve des collections extraordinaires, mais pas des collections originales, des plâtres, des copies de fresques. Pouvez-vous nous dire à quoi ça consiste de conserver dans ce musée ?
Alors, en fait, j'ai suivi une spécialité dans le domaine de la sculpture et du 19e siècle. Donc, je peux dire que mes mentors ont été les professeurs qui ont bâti cette extraordinaire histoire de l'art concernant la sculpture du 19e siècle et qui sont incarnés par Anne Pinjot, Catherine Chevillot, Antoinette Lenormand Romain ou encore Laure de Margerie, qui sont toujours des modèles et des amis. Grâce à leur enseignement, je me suis beaucoup intéressée à la sculpture et notamment, bien entendu, au musée de sculpture comparée qui avait été créé par Viollet-le-Duc en 1878. Et c'est ce qui a incité Guy Cocheval, qui était aussi un de mes professeurs et que je connaissais bien, à m'engager pour travailler à ses côtés au Musée des Monuments Français, alors qu'il y avait un grand projet de réaménagement et de redéploiement des collections pour en faire ce qui deviendra, donc la Cité de l'architecture. Je n'ai jamais eu en tête de travailler spécifiquement dans un musée. Ce qui me motivait était davantage de travailler dans les arts, que ce soit du côté du marché de l'art d'ailleurs, puisque j'ai eu une expérience à Sotheby's à New York, ou encore donc comme professeur, ce que j'ai pu faire parfois et ce que j'aurais beaucoup de plaisir à refaire d'ailleurs.
Donc vous avez quand même passé le concours conservateur, donc là à ce moment-là c'était pour être conservateur.
Voilà. Alors évidemment donc en France le système est ainsi fait qu'il faut passer un concours pour pouvoir devenir conservateur. Et comme vous le savez, donc c'est un concours qui est très exigeant, que j'ai eu la chance de pouvoir obtenir, évidemment avec beaucoup de travail, et ce qui m'a permis de pouvoir rentrer dans cette voie royale et d'intégrer le corps des conservateurs. Ce faisant, donc j'ai intégré donc le corps de l'administration, puisqu'en fait, en France, ce qui est aussi assez particulier, c'est que la plupart des professionnels œuvrant dans les musées sont des fonctionnaires et appartiennent donc à une fonction publique, soit territoriale, soit nationale.
On reviendra sur cette particularité française, en la comparant peut-être à ce qui se passe au Canada et en Amérique du Nord. Revenons juste un tout petit instant au Musée des Monuments français. Quand je le visite, je ne vois pas beaucoup de sculptures, d'éléments reproduisant de la sculpture du 19e siècle. Le 19e siècle est assez absent. Alors évidemment, les moules, beaucoup des moules ont été faits au 19e siècle, mais les modèles qu'ils représentent et cette sculpture comparée, elle s'étiole un peu vers la fin du 18e siècle. Pourquoi est-ce que vous avez une explication à cela ?
Bon, tout d'abord, il y a une raison historique, tout simplement, parce que donc, la collection ancienne des moulages a été faite en 1878 jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc, elle représente une tradition statuaire donc, qui, à l'époque, était celle qui est disponible. C'est également donc, le reflet d'un goût qui valorisait énormément bien entendu la sculpture antique, mais surtout la sculpture médiévale, puisque Viollet-le-Duc, on le sait, donc, a été un des grands défenseurs, parfois pourfendeurs, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, de l'architecture médiévale. Je dirais que le projet que nous avions à défendre à l'époque était un projet qui mettait davantage en valeur la sculpture et l'art monumental plutôt que l'architecture. La cité de l'architecture telle qu'elle est devenue donc, diffère du projet initial sur lequel j'ai travaillé.
Arrivons donc à Montréal. Est-ce que vous pouvez nous décrire en deux mots les forces du musée de Montréal ? Quelles sont ses collections ? Ce que vous avez trouvé d'ailleurs en arrivant quand vous avez été recruté par Guy Gaucheval, est-ce qu'il est maintenant ? Et en particulier, moi je suis frappé quand je visite le musée de Montréal de voir qu'en peinture ancienne et 19e, une grande partie des collections sont de ces 20 dernières années, ces 15 dernières années.
Effectivement, donc c'est un. Alors pour replacer donc le musée des Beaux-Arts de Montréal dans son histoire, c'est une institution qui a plus de 150 ans, ce qui est quand même relativement ancien quand on se place dans une perspective nord-américaine. Et c'est un musée qui émane de sa société, comme ça a été le cas dans beaucoup d'autres villes en Amérique du Nord. Ce sont très souvent donc, des institutions qui sont créées par la société civile, par le fait de grands philanthropes ou de grands bénévoles qui veulent s'inscrire dans la vie urbaine par un projet culturel qui s'incarne très souvent au travers d'un musée. Dans le cas du musée des Beaux-Arts de Montréal, c'est un musée qui a été fondé en 1860, qui à l'époque portait le nom de Art Association of Montreal, qui était à la fois une école d'art, qui également voulait se comparer ou s'inspirer du modèle très prévalent à l'époque qui était celui du Victorian Albert Museum. On pensait que l'éducation au travers des arts et d'exemples et de modèles dispensés par des institutions culturelles pouvait élever le niveau de la production d'une société industrielle alors en forte croissance. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal donc, a continué sa lancée avec différents pavillons qui ont été construits au cours du temps. Et quand je suis arrivée au Musée des Beaux-Arts, donc c'était en 1999, il y avait à l'époque trois ensembles pavillonnaires qui formaient ce campus muséal. Je dirais que la particularité du Musée des Beaux-Arts de Montréal est que c'est un musée encyclopédique. C'est important de le définir parce qu'en France, nous avons donc certains de ces modèles, comme le Musée de Lyon, par exemple. C'est un musée qui se définit suivant définition anglo-saxonne comme un museum, c'est-à-dire un objet destiné aux objets archéologiques ou art décoratif, mais aussi un objet qui est une gallery, c'est-à-dire donc qui va conserver des beaux-arts. Et nous avons donc le bonheur, je crois, et vraiment l'immense chance d'avoir une collection encyclopédique. Ce musée n'a pas été non plus décidé avec un mandat initial, ce qui nous permet énormément de liberté. Au départ, cette association s'est intéressée à l'art européen, bien entendu, puis ensuite à l'art contemporain canadien, et puis ensuite, grâce à l'action de certains conservateurs, ce musée donc, s'est élargi aux cultures du monde, puis ensuite aux arts décoratifs anciens, et puis ensuite, grâce donc, à l'action et aux donations de certains philanthropes, comme Madame Stewart, nous avons élargi nos collections au champ du design, et puis tout récemment, nous avons encore donc, élargi notre panoplie avec une salle de concert professionnelle et avec l'intégration d'une fondation dédiée à la musique. Donc on voit bien comment des actions individuelles ont vraiment formé de manière organique, de manière très plastique, les destinées du musée jusqu'à ce qu'il devient aujourd'hui, c'est-à-dire un campus muséal avec 5 pavillons.
Alors, parlons justement de ces extensions. Quand vous êtes arrivé, vous disiez qu'il y avait
trois ensembles architecturaux.
Alors, il y a 3 ans, vous avez inauguré donc ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire cet auditorium plus une aile spécifique qui a été collée contre cet auditorium. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez eu finalement une chance extraordinaire, c'est que le musée était juste à côté d'une église qui a été désaffectée, en plus qui était une belle église avec des vitraux importants.
Ouais.
Et vous avez pu y créer à la fois cette salle de concert, cette salle de conférence, et derrière, construire l'aile. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette aile et sur cette construction et ce
Effectivement,
projet
je pense que d'une... de certaines difficultés ou de certains handicaps, si je puis dire, donc liés à un musée qui, au départ, donc, s'inscrit dans un tissu urbain extrêmement dense, sans parc, sans jardin aux alentours. Finalement, donc, nous avons repensé donc, cette opportunité d'expansion avec une église qui se trouve donc, au voisinage très direct du musée, et pour pouvoir l'intégrer, la restaurer et, je dirais, la recycler, ce qui est un projet extrêmement généreux, je crois, c'est extrêmement utile, notamment à Montréal qui se qualifie par un patrimoine religieux absolument extraordinaire. Mark Twain disait au 19e siècle qu'on ne pouvait pas lancer un caillou sans casser un vitrail dans la ville de Montréal. Et comme vous le savez peut-être ou pas, donc, le Québec a subi une désaffection extrêmement rapide dans les années 60 avec ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, et il en est suivi donc une désaffection, une désertification donc de tout ce patrimoine religieux qui reste un petit peu en déshérence. Alors parfois certaines églises sont transformées en appartements, voire même en salles de sport, j'en ai vu, mais aussi dans le cas donc, du Musée des Beaux-Arts de Montréal, nous savions qu'il y avait une nef qui avait une capacité acoustique remarquable. Également la nef comportait des vitraux Tiffany magnifiques, c'est le plus bel ensemble au Canada, et du coup donc ça nous a permis de pouvoir nous associer avec un philanthrope qui, de son côté, donc, voulait créer une fondation dédiée à la musique de chambre. Et je dois dire que le mariage des arts visuels et de cette fondation dédiée à la musique a été un véritable succès. Ça a été une façon de co-créer une solution, de l'inventer à la lumière donc, d'un certain pragmatisme éclairé.
Alors, je renvoie les lecteurs de la Tribune de l'Art aux articles que j'ai publiés sur cette aile. Donc, il y a l'auditorium dont on vient de parler, l'église, les vitraux, qui sont très beaux, hein, qui ont d'ailleurs, une partie est exposée à Paris.
Absolument. En fait, absolument. Donc, j'étais très, très heureuse de pouvoir, lors de la dépose des vitraux, à cause du travail de rénovation que nous avions dû faire en 2009-2010. Donc, j'avais souhaité donc, organiser la première exposition Tiffany, Oui, Confort Tiffany en France, ce qui m'avait énormément frappé parce qu'il n'y avait jamais eu d'exposition consacrée à Tiffany en France depuis l'exposition universelle de 1900. Et d'ailleurs, ça reste toujours la seule exposition à ce jour.
En revanche, on peut voir des vitraux de Tiffany dans l'église américaine sur la rive gauche à Paris.
Alors, évidemment, donc, il y a des œuvres de Tiffany conservées donc, soit dans les collections muséales, soit dans certaines institutions. Mais il s'agit encore et toujours de la seule rétrospective consacrée à Louis Comfort Tiffany. Et j'espère qu'il y en aura d'autres.
Cette nouvelle aile était composée de l'église, mais aussi d'un pavillon collé à cette église, et qui a des collections d'art canadien.
Exactement.
En France, on ne regarde pas beaucoup l'art canadien, on ne le connaît pas beaucoup.
Oui.
Je trouve que c'est dommage. Mm-hmm. Donc j'ai essayé de parler de certaines acquisitions que vous avez faites ces dernières années. J'ai vu avec, lors d'un séjour récent, donc avec Jacques Desrochers, qui est le conservateur en charge de l'art canadien, il va m'envoyer les dernières acquisitions que vous avez faites. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'art canadien?
Oui, alors,
et ce pavillon.
Un très bon point. Effectivement, donc, cette collection encyclopédique que nous avons, donc, près 40 000 œuvres, donc se compose d'une partie importante dédiée à l'art québécois et canadien. Alors, je fais la différence et la distinction parce que, bien entendu, donc le Québec donc a cette profondeur historique avec tout ce qui est lié donc aux origines de la Nouvelle-France. Et puis il y a aussi donc l'art canadien donc qui à l'amplitude d'un pays continent. Évidemment, donc, il ne faudrait pas oublier donc, ce qui concerne les arts amérindiens et inuits, c'est-à-dire de toutes les Premières Nations qui peuplaient donc, le nord de l'Amérique avant la venue, avant la création même du Canada. C'est un art qui a émergé du point de vue des beaux-arts, donc évidemment dans de la même façon que l'art américain, toujours donc avec l'exemple soit de l'art anglais ou de l'art français. Il y a eu donc, et puis même auparavant, je dirais que c'est un art qui a beaucoup à voir avec la France parce qu'il y a eu l'action de certains collectionneurs, notamment dans les dans les arts religieux, et on le verra avec une exposition consacrée à Desjardins, qui ont permis d'importer vers le Québec, donc une nation très catholique historiquement parlant, de grands exemples de l'art religieux d'ici, donc vers le Québec. Un exemple, nous avons beaucoup ou quelques d'assez nombreux exemples d'argenterie du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle qui n'ont pas été fondus par la Révolution, parce que justement, donc, cette argenterie ou cette orfèvrerie exportée vers ce qui était la Nouvelle-France a été conservée et sauvée de la Révolution depuis, donc, alors qu'en France, donc, très souvent, donc, elle a pu disparaître. D'autres cas, donc, il y a des artistes que vous connaissez bien, comme Schaeffer ou encore tout cet art religieux du XIXe siècle qui a été assez présent dans les églises du Québec et qui a servi comme modèle pour de nouvelles générations d'artistes, comme Ozias Leduc, par exemple. Nous avons un exemple d'une peinture de religieuse de Harry Schaeffer, qui a été copiée par Ozias Leduc, qui est un éminent peintre de la fin du XIXe siècle.
C'est d'Harry Schaeffer ou de peintres religieux du XIXe siècle, une chose qui m'intéresse beaucoup. Il y en a dans les églises de Québec ?
Alors, non, mais il y a des copies.
Ah, c'est ça, il y a des copies, mais les artistes canadiens sont venus travailler en France.
Exactement.
En fait.
Alors, non, c'est plutôt... ce sont plutôt donc, soit des artistes sont venus en France, effectivement, donc se former auprès des académies, soit donc, les églises ou les lieux de culte donc, ont reçu donc, des tableaux de dévotion de peintres français ou encore inspirés par des grands modèles français. Et c'est ce qui a formé à l'origine cette première peinture de Nouvelle-France. Puis ensuite, petit à petit, forcément, et avec l'exemple alors, de la France, mais aussi de l'Angleterre, il ne faut pas oublier que depuis 1763 et depuis que Louis XV donc, a abandonné donc, ses arpents de neige, comme il disait, donc forcément, donc, il y a aussi toujours cette double ascendance d'un art qui vient à la fois de la France, mais aussi de l'Angleterre, et qui a permis de former toute une génération de peintres, jusqu'à, par exemple, Suzor Côté, qui a été le premier peintre canadien à être accepté à la Société nationale des beaux-arts, donc de Paris, et ce qui a généré de fructueux échanges. Ce modèle de formation est assez courant hein, en Amérique. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler à Cuba pour comprendre l'art cubain qui lui-même donc, s'est beaucoup développé auprès des académies espagnoles. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces pays, donc, à partir de la fin du 19e siècle et du 19e siècle, donc, au moment où Paris donc, est capitale des arts, il y a tout un mouvement de nationalisme qui permet à de nouvelles générations de peintres de s'ancrer dans un territoire pour pouvoir donc, affirmer leur originalité et se séparer, je dirais, de donc, cet exemple de ces liens, de ce cordon ombilical qui le relie à l'ancien monde. Et c'est ce qui a donné alors, à Montréal donc, l'émergence d'artistes tout à fait originaux, notamment donc, sur le groupe du Beaver Hall, très montréalais, qui s'est incarné totalement dans une révolution industrielle qui était celle de Montréal. Montréal était une grande métropole donc, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Le Canada, d'ailleurs, à l'époque, avait une population urbaine qui était équivalente à la population rurale. C'est assez étonnant pour le dire, ce qui n'était pas du tout le cas de la France. Et puis, donc, de la même façon, en Ontario, il y a eu l'émergence du groupe des Sept, donc, qui s'est ancré dans un territoire sauvage,
paysagistes essentiellement.
Voilà, donc des paysagistes et qui ont créé donc un art donc à leur image, un art proprement canadien. Et donc cette réaction donc afin pour se libérer donc de l'emprise des académies de l'Europe. Donc c'est finalement donc c'est un mouvement donc à l'échelle des continents américains nord et sud.
Donc je voudrais revenir sur un mot, simplement pour préciser pour les auditeurs de la Tribune de l'Art qui ne le savent peut-être pas. Vous avez parlé de la collection Desjardins. Donc la collection Desjardins était un prêtre qui a récupéré des tableaux après la Révolution et les a vendus ou donnés à des églises du Québec. Et il y a beaucoup de tableaux peu connus, voire complètement inédits du XVIIe siècle français. Et ces tableaux seront exposés l'année prochaine à la fois au Musée national de Québec, mais également au Musée des Beaux-Arts de Rennes, où Guillaume Caseroni est en charge de cette exposition. C'était juste pour préciser cela. Voilà. Maintenant, revenons, un très beau projet qui finalement mettra un petit peu d'art canadien, même s'il est français, à Paris. Pardon, pas à Paris, à Rennes. Alors, on a parlé de cette aile qui a été inaugurée il y a 3 ans, et là, il y a quelques jours, donc j'ai pu la visiter, vous avez inauguré une nouvelle aile. On a l'impression que le musée des Beaux-Arts de Montréal s'étend, je vous le dirai après si vous avez d'autres projets. Vous avez construit une aile remarquable qui s'articule autour d'une donation dont nous avons déjà eu l'occasion de parler sur la tribune de l'art, qui est la donation de M. et Mme Hornstein, qui est une donation exceptionnelle de 70 à 80, vous nous préciserez également le nombre exact de tableaux anciens, beaucoup de tableaux nordiques, également des tableaux italiens, des tableaux français, sachant qu'ils avaient déjà donné plusieurs œuvres depuis 10-15 ans. Donc, grâce à cela, le musée des Beaux-Arts de Montréal, qui avait déjà une belle collection de peintures anciennes, devient une des plus importantes collections de peintures anciennes, non seulement au Canada, mais aux États-Unis.
Alors, effectivement, le musée a connu une croissance assez incroyable, puisqu'on a eu la chance de pouvoir ouvrir deux pavillons en l'espace de 5 ans, à l'intérieur même de 5 ans, ce qui est tout à fait remarquable. Donc, la collection a été une première fois redéployée dans son ensemble dans les 4 pavillons existants en 2011. Et là, on vient tout juste d'inaugurer donc, ce nouveau pavillon pour la paix, Michael et Renata Hornstein, qui est consacré à l'art international et à l'éducation. Alors, pour cette donation de Renata et de Michael Hornstein, effectivement, il s'agit de 77 œuvres qui ont été offertes au musée en 2012 et qui ont suscité de la part du gouvernement du Québec une donation spécifique pour pouvoir ériger ce nouveau bâtiment, ce nouveau pavillon, et qui comprend maintenant un petit peu moins de 800 œuvres en art international, depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'art contemporain, jusqu'à l'an 2000. Je vais juste revenir sur la donation des Hornstein. Michael et Renata Hornstein sont des Polonais d'origine qui sont des rescapés de l'Holocauste, l'un et l'autre. Et ils sont arrivés au Canada au début des années 50. Michael a fait sa fortune dans l'immobilier et il est devenu un des très grands Montréalais, un philanthrope dans le domaine non seulement de l'éducation et de la santé, mais aussi des arts. Ils sont associés au musée depuis quelques décennies et on peut dire que depuis 1979, ils nous ont donné leur premier tableau d'importance avec le roi David de Valentin, merveilleux portrait. Et ensuite, leur attachement au musée n'a fait que se renforcer jusqu'à cette donation formidable qui s'est incarnée en 2013. Maintenant, nous venons de faire le catalogue de leur donation qui comptabilise 400 œuvres, mais parmi ces 400 œuvres, il faut préciser qu'il y a quand même beaucoup de dessins d'un fond Hodler. Ce qui est surtout remarquable, c'est qu'il s'agit d'une centaine de tableaux de maîtres anciens, ce qui effectivement nous positionne parmi les 3 grandes collections de maîtres anciens du Canada. Ça, c'est très clair. Et évidemment, aux États-Unis, pour ce qui est de la collection et de la représentation de l'art hollandais et flamand, le musée est effectivement donc très très bien placé.
Il y a beaucoup de nature morte justement hollandaise, oui, beaucoup absolument. De paysages flamands, etc.
Dans oui, ce... tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, ils se sont ils ont beaucoup apprécié l'art hollandais, l'art flamand, comme certains autres collectionneurs américains de leur génération, car probablement donc cet art pour des personnes qui maintenant malheureusement viennent de décéder, mais qui avaient donc 80-90 ans, incarnaient toutes ces valeurs de la République, de l'enrichissement, de la réussite personnelle. Et on voit donc cet intérêt pour notamment des vanités que nous avons de Peter Claes ou encore de Christian Lux. J'ai pas un excellent accent pour l'art néerlandais, donc vous me pardonnerez, mais néanmoins donc ils ont offert donc des œuvres de Bork, ils ont offert donc véritablement donc également des œuvres de Snijders ou encore d'autres de Péchier. Donc on a une représentation de nature morte extrêmement solide, ce qui a d'ailleurs donné l'occasion de créer un cabinet de curiosité à l'intérieur même de cette nouvelle aile, de ce nouveau pavillon pour la paix. En ce qui concerne donc l'art paysager, On peut dire que tous les grands peintres sont représentés, sauf Salomon, probablement.
Mon Dieu, Salomon Ritzel.
Voilà.
Et peut-être Meinert Tobema.
Et voilà, effectivement, c'est vrai. Mais on a des tableaux de Vroom, donc, qui sont quand même assez rares. On a de merveilleuses peintures de Jos de Mamper, notamment donc, une peinture absolument monumentale, donc, qui est la seule de ce genre dans une institution publique. Et puis, donc, bien entendu, pour les marines, la représentation depuis Van Goyen, Bakhuizen et autres, donc, et, ou encore Wouvermann, donc, pour des paysages oniriques, est très... assez remarquable. Pour nous, cette période du siècle d'or est totalement métamorphosée. Et évidemment, donc, il y a des tableaux, des portraits de Livens qui sont remarquables, des scènes de religieuses de Jan Steen, ou encore donc, d'autres scènes de genre de, signées par Teniers le Jeune, encore donc, Bruegel, donc, le jeune avec une merveilleuse petite un petit cuivre donc avec un paradis
Jan Bruegel le jeune.
Voilà, Jan Bruegel le jeune et puis
Jan Bruegel le vieux alors.
Alors en fait,
il suis perdu dans les Bruegel, excusez-moi, c'est ouais. Bruegel de velours.
Alors exactement, velours, voilà. Exactement. Mais en fait, on a des représentations des deux parce que ce qui est assez amusant, donc il y a un tableau de Mamper qui a été peint avec des personnages de Bruegel le vieux et un autre tableau avec une scène d'hiver qui est peint donc avec des personnages donc de Bruegel le jeune, donc son fils.
On parle
donc,
de Jan. Intéressant. On parle
exactement,
de Jan. On parle pas de Peter.
Bien entendu. Non, d'accord. Tout à fait, malheureusement.
Vous n'avez malheureusement pas de Peter Bruegel le vieux encore. Ça viendra peut-être.
Alors je demande. Voilà. Oui. Et puis donc enfin disons que la collection est donc nous permet avec, on a plusieurs tableaux de Nicolas Maz, on a aussi des tableaux de David Teniers le Jeune, on a donc une représentation qui s'est promenée de Kansas City à Boston, de Brackelenkam, etc. Donc c'est quand même une donation tout à fait remarquable pour l'art hollandais.
Alors revenons sur les collections et sur l'enrichissement des collections. Moi je suis frappé quand je vais à Montréal de voir, à chaque fois, je n'arrive pas à suivre, j'ai un peu de mal, des donations sans arrêt. Donc, non seulement c'est des donations Hornstein, mais vous avez beaucoup de donations. Vous avez beaucoup d'achats également. Alors parlez-nous un peu de la manière dont vous arrivez à acheter des choses, parce que je crois que vous n'avez pas de budget propre d'acquisition. Et ensuite, quelle est votre politique d'acquisition, sachant que je pense que maintenant, effectivement, les Hollandais, les Flamands, les Hollandais sont bien représentés, les Flamands également. Ouais. En tout cas, peut-être pas il n'y avait pas de Rubens, je ne crois pas. Pas de Jordaens.
On a deux Rubens, mais qui ne sont pas formidables.
D'accord. Pas de Jordaens, en tout cas, je ne crois pas.
Enfin, non, bon. Malheureusement.
Mais, et puis, en peinture française, 17e siècle, vous avez des choses très importantes, comme ouais. Champagne, Poussin, Claude Lorrain, mais il y a encore, il me manque, Vouet, effectivement, Eustache Le Sueur, enfin un certain nombre de peintres.
Ouais.
Donc, quelle est votre politique, quelle va être votre politique dans les années à venir d'enrichissement et comment est-ce que vous arrivez à la mener?
Alors, c'est vrai que la collection, elle a été créée en très grande partie par des donations, ce qui est majeur et ce qui est finalement assez fréquent en Amérique du Nord. Donc, l'intimité donc, et l'amitié que l'on peut nouer avec des collectionneurs est tout à fait fondamentale. Là, donc, par exemple, nous allons... obtenir, et je suis extrêmement heureuse, un tableau de Vlaminck, donc le cultivateur de 1905, un tableau fauve absolument magnifique, donc une donation de la part d'un primo donateur, si je puis dire, au musée, et ça a été vraiment un travail sur plusieurs années, vraiment pour acquérir et gagner la confiance afin... de recevoir un tableau qu'on serait absolument incapable d'acheter. Hein. On parle ici d'une valeur de 5 millions, ce qui est tout à fait hors de nos budgets. Et puis, donc, il y a quand même donc, un budget qui nous est imparti. Le Musée des Beaux-Arts a des fonds privés, hein, des fonds qu'il génère donc, grâce à des fonds de dotation anciens, et qui lui permettent d'acheter des œuvres avec un budget, somme toute, assez modeste, donc, puisqu'en fait, on peut... investir un peu moins $1 million, je précise.
Par rapport à en euros, ça fait combien à peu près?
À peu près 700 000, ce qui est quand même assez peu, surtout que donc cette somme se divise sur les quatre comités qui composent notre collection encyclopédique. C'est-à-dire que nous avons un comité pour l'art canadien, un comité pour les arts décoratifs et le design, un autre comité pour l'art ancien international avant 1900 et un autre donc, pour l'art international après 1900. Alors vous voyez que quand on divise la somme et quand on connaît les prix sur le marché. Donc il faut savoir être très inventif et très réactif. Après, l'opportunité que nous avons, c'est à mon sens d'avoir une collection tellement large, tellement ouverte et avec des lacunes qui nous permettent de pouvoir être très opportunistes. Moi, je dis souvent qu'un bon conservateur et un bon directeur, c'est un bon chasseur. Donc il faut savoir pister donc le gibier, et je le dis en toute avec beaucoup d'humour, parce que donc c'est aussi un jeu, mais donc il faut savoir être convaincant, il faut savoir ne pas aller dans le sens des modes, il faut savoir être rapide dans certains cas, mais parfois donc attendre donc que les œuvres donc baissent de prix pour pouvoir les négocier de la manière la plus raisonnable possible. Et dans ce cas-là, le musée et moi, en tant que collectionneur dans l'âme, si je puis dire, j'ai beaucoup, je crois beaucoup aux opportunités et à la réactivité. Par exemple, on a eu un tableau qui nous a été proposé, qui vient d'être révélé, des frères Guardi, et qui appartenait à un très grand cycle de peinture donc pour un palais vénitien, un ensemble qui avait été dispersé, dont nous avions déjà donc un des panneaux offert par Monsieur Einstein il y a de cela plusieurs années, et nous venons donc d'acheter pour une somme assez raisonnable, somme toute même très raisonnable, un des deux tableaux en pendant. Et donc ce sont des opportunités qu'il faut saisir très rapidement. Et je dirais même que parfois, à la TFAF, hein, même si ces grandes foires donc sont très courues, ou encore donc à la Biennale, donc on peut toujours donc chercher des œuvres qui correspondent pas forcément au goût du jour, ou on peut encore regarder donc des œuvres qui sont qui restent invendues et donc qui à ce moment-là pourraient être acquises par la suite. La difficulté dans la réactivité que nous avons, c'est celle de tous les musées, c'est qu'effectivement, donc, pour pouvoir être rapide donc, aux enchères, là où finalement donc, les tableaux sont toujours offerts au meilleur prix, c'est qu'il y a quand même toujours des démarches liées au comité pour s'assurer de la condition d'état, et aussi pour pouvoir s'assurer de pouvoir disposer des fonds que nous avons rapidement. Alors, quelles sont les perspectives d'enrichissement des collections? C'est vrai que très récemment, moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé à enrichir la collection en art romantique, hein, puisqu'il y avait beaucoup d'opportunités sur le marché, avec des artistes tels que Chassériau, par exemple.
Deux tableaux qu'on a publiés sur le de l'art, magnifique. De très beaux portraits.
De très beaux portraits, donc du vicomte et la vicomtesse de Ranchicourt, donc que je pistais depuis des années, et qui maintenant donc sont chez nous. Également la sculpture, hein, la sculpture demeure un art donc assez méconnu, finalement il y a beaucoup de méfiance, parce qu'il faut bien connaître donc les questions d'édition donc avant de pouvoir s'engager. Je dirais que pour la peinture en scène de manière générale, la peinture du XVIIIe siècle, donc on peut faire des acquisitions tout à fait remarquables, de très grands portraits. On a pu aussi acheter une scène galante de l'Ancré absolument magnifique l'année dernière. Alors, je ne suis pas du tout désespérée sur la question des acquisitions. Je pense que très souvent, il faut davantage d'imagination et d'être très vigilant sur ce qui est sur le marché. Et on a toujours de bons objets à acheter. Ça ne veut pas dire donc les objets les plus chers, mais les objets les plus pertinents. Enfin, encore une fois, nous venons de faire l'acquisition chez Aveline d'une merveilleuse glacière aux éléphants du service de Marly.
Article à venir sur la tribune de l'art, vous n'en avez pas encore parlé.
Voilà, exactement.
Elle était présentée d'ailleurs à la TFAF à New York.
Tout à fait, et donc à New York. Et donc c'est un don pour compléter la collection de napoléonienne que Ben Wooder nous avait offerte. Alors pour toutes ces raisons, moi, je reste très 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 optimiste sur les opportunités, et finalement on arrive à faire assez bien.
Et vous faites même très bien, je peux le dire, sans flatterie. Alors vous avez aussi, vous exposez beaucoup de prêts de collections privées, parce qu'en fait ces prêts deviennent des dons souvent.
Exact, voilà. Alors c'est vrai que c'est une liberté que nous pouvons avoir en Amérique, qui est peut-être un petit peu plus complexe en France, où les institutions publiques ne veulent pas recevoir des prêts privés parce qu'ils ne voudraient pas finalement cautionner donc, des biens privés. Il y a toujours cette différence entre d'un côté le monde du privé et de l'autre côté le monde du public, qui se regardent parfois avec une certaine défiance. Ça fait partie de la culture historique française. Et même si on comprend de plus en plus qu'on appartient à un même écosystème et que de toute façon, au final, donc les bons galeristes travaillent avec les bons collectionneurs qui travaillent avec les bons conservateurs pour finir donc à travailler avec les bons musées. Donc, c'est plus une question qualitative qu'une question d'appartenance donc, au monde public, au monde privé. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. D'ailleurs, j'admire énormément certains marchands parce que ce sont de véritables découvreurs qui prennent beaucoup plus de risques que de nombre de conservateurs. Alors, en Amérique, on a une position qui est totalement différente, puisque effectivement, donc, les conservateurs et les gens de musée ne sont pas des fonctionnaires, donc il n'y a pas cette défiance a priori envers le privé. Les acteurs du monde muséal sont les meilleurs acteurs, point final. Donc, et on prend donc, les experts qui proviennent du monde du marché de l'art, et ça s'est vu, donc, des personnes qui viennent de chez Sotheby's et qui ensuite ont travaillé au Getty. Donc, ça, on va aller chercher donc les meilleurs spécialistes pour nos besoins. Et la façon que l'on a d'interagir avec le monde du privé, que ce soit des collectionneurs ou même des galeristes, c'est un monde qui est régi par des règles de déontologie, hein, assez claires. Donc, il y a d'ailleurs l'Association des musées américains donc, qui le définit très précisément. On l'oublie trop souvent. Mais je dirais aussi que c'est une façon de pouvoir bâtir un patrimoine pour la société. En Amérique, on hérite peut-être moins d'un passé, comme ici, que l'on construit un futur ensemble. Et c'est ce qui fait en sorte que des jeunes collections comme les nôtres, bon, 150 ans par rapport au patrimoine d'Europe ou même d'Asie, c'est effectivement très, très jeune, eh bien, on peut travailler pour pouvoir donc renforcer un patrimoine collectif, un patrimoine commun, parce qu'il y a le sens de bâtir pour le public et vraiment de bâtir donc, pour la collectivité. Et de ce point de vue-là, aller donc emprunter des œuvres qui appartiennent à des collectionneurs privés et exposer donc ces œuvres donc sur nos murs, ça fait partie d'une stratégie à long terme afin d'enrichir nos collections. Et effectivement, il faut savoir faire preuve de jugement, parce qu'évidemment, donc, il ne faut pas faire le jeu de collections privées, notamment pour l'art contemporain, où on pourrait facilement donc finalement valider donc des cotes ou des artistes. Mais quand vous avez des œuvres de Quéricault sur vos murs ou encore d'autres œuvres de Valoton ou de Hodler, ces artistes sont bien connus du grand public. Ce sont souvent donc des œuvres extrêmement étudiées, qui ont donc des provenances solides, que nous examinons avec attention. Et du coup, donc il n'y a pas de jeu pour créer des cotes qui existent déjà. Je crois que la nuance, elle doit se faire, à mon avis, donc sur ce que nous exposons, et notamment, je reste très 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 vigilante pour exposer des œuvres d'art contemporain, d'artistes très actuels, parce que là, pour le coup, les musées peuvent faire le jeu des galeristes et le jeu de certaines cotes.
Alors, il y a aussi quelque chose qui, dans les musées américains, et je pense au Canada, à Montréal aussi, est possible, c'est de revendre les œuvres. Quelle est votre position par rapport à ça? En particulier, ce qui m'a beaucoup frappé, ce qui est très amusant, c'est que dans la nouvelle Elle, on voit un grand tableau, très beau d'ailleurs, attribué à Vasari, qui appartenait au Musée des Beaux-Arts de Montréal et qui a été vendu bien avant que vous soyez là, et qui finalement a été racheté par une communauté qui le dépose maintenant au Musée des Beaux-Arts de Montréal et peut-être qu'à terme qu'il le donnera au Musée des Beaux-Arts de Montréal. En tout cas, donc c'est un tableau que finalement le musée des Beaux-Arts de Montréal regrette, même si c'est pas vous qui l'avez vendu. Est-ce que vous avez déjà vendu des œuvres?
Non, 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 jamais. Alors, pour revenir sur cette histoire, c'est quand même une très belle découverte. Il s'agit d'un très très grand tableau d'hôtel, donc probablement un des plus grands tableaux de la Renaissance, de l'atelier de Vasari qui représente la circoncision de Joseph. Ce tableau, qui doit faire à peu près 3 mètres de haut, qui est assez monumental, avait été vendu par le Musée des Beaux-Arts donc en 1940. Il était en assez mauvais état. Heureusement, donc un donateur, donc l'a acquis pour l'oratoire Saint-Joseph, qui est un lieu de pèlerinage très important à Montréal. Et maintenant, donc, ce tableau a été restauré et appartient à cet oratoire. Nous avons la chance de pouvoir le présenter tout beau, tout neuf, si je puis dire, parce que donc il vient d'être restauré dans le nouveau pavillon. C'est vrai que ça pose la question de la vente des œuvres. Alors, dans l'absolu, le musée peut vendre des œuvres parce que donc nos collections sont privées, donc elles n'appartiennent pas donc à un patrimoine public dans le sens légal du terme, comme en France. Mais nous sommes très méfiant et je dirais qu'à l'heure actuelle, la politique donc, n'est pas vraiment vers la vente d'œuvres d'art. Un autre exemple un peu triste, c'est que le musée, donc, c'est des parties d'un Bierstadt il y a plusieurs années, alors qu'on rêverait d'avoir donc, une œuvre de ce grand paysagiste américain.
Qui maintenant est hors de prix.
Absolument. Alors, donc, il faut être très très vigilant parce qu'on on oublie que le regard que l'on pose sur les collections n'est que le regard, donc, qu'un regard très temporaire donc, par rapport à la vie même des institutions qui s'inscrit sur le très long terme. Et il faut savoir faire preuve d'humilité. Il y a eu un cas où nous avons cédé une œuvre dans nos collections qui est très particulier, puisqu'il s'agissait donc d'une tête maori tatouée que nous avons rendue donc, à son peuple, à la Nouvelle-Zélande. Mais encore une fois, donc, il s'agissait d'un cas particulier et pour cet exemple, le conseil d'administration a d'ailleurs statué que ce n'était pas une aliénation, puisqu'en fait, le corps humain est inaliénable et que cette œuvre-là n'avait jamais appartenu au musée. Donc, c'est un cas très spécifique et singulier. En ce qui concerne les collections, le musée des Beaux-Arts d'Ontario a lancé toute une réflexion pour pouvoir justement vendre certaines œuvres, ce qu'ils ont fait. Ils ont acquis d'ailleurs un Hammer Show grâce aux produits de la vente d'œuvres anciennes. D'art ancien qu'ils avaient. Tranquillement, on voit certains musées canadiens suivre les pas de musées américains avec une démarche réfléchie, très publique. Forcément, donc, nous nous posons aussi des questions, mais au final, c'est vrai que nous avons des tableaux que nous pourrions vendre, comme des tableaux de Barbizon ou des tableaux de l'école de la Haye que nous avons en profusion, mais le produit des ventes ne serait peut-être pas forcément si intéressant. Et quand il s'agit d'œuvres importantes, nous ne voudrions certainement pas nous en départir. Par contre, nous avons pu acheter des œuvres qui ont été vendues par des musées américains. Je pense à un magnifique tondeau de 1505, une sainte famille d'Albertinelli, d'ailleurs acquise grâce au soutien financier de Michael et de Renata Ornstein, et qui a été vendue par le musée de Détroit. Alors c'est un musée, c'est un tableau qui était passé en vente, qui ensuite avait été acquis par une galerie, que nous avions ensuite pu acheter pour un prix plus modeste, parce que les musées n'aime pas trop acheter des œuvres qui ont été aliénées par d'autres confrères. Pour nous, aucun problème. Donc, avec Hilliard Goldfarb, notre conservateur pour les maîtres anciens, nous avons pu faire cette acquisition très importante à un prix raisonnable.
Un très beau tableau.
Très, très, très beau tableau. Et j'ai eu l'opportunité de discuter avec l'actuel directeur du musée de Détroit, qui a remplacé Graham Bill, et qui effectivement se souvenait de cette vente-là, et qui n'aurait pas forcément agi de la même façon une dizaine d'années plus tard. Donc je crois qu'il faut quand même faire preuve de prudence et d'humilité.
Alors, c'est une des différences entre les musées français et les musées nord-américains, le fait de pouvoir revendre. Quelles sont les autres différences principales que vous voyez entre, puisque vous avez connu les deux finalement?
Oui, alors ça c'est vraiment très intéressant, parce que je me situe toujours avec un pied sur le continent américain, un pied sur le continent européen, et plus spécifiquement au Québec et en France. Et de ce point de vue-là, il y a une différence avec les musées des États-Unis, et il y a aussi une différence avec les musées français. Le Canada et le Québec s'inscrivent dans un entre-deux très confortable, très original, très singulier, très original, puisque nous sommes vraiment un système hybride entre le système totalement privé, donc à l'américaine, et le système totalement public à la française. Et je dois dire que je trouve que ce type de gouvernance est extrêmement intéressant, et surtout parce que justement il nous permet d'avoir le meilleur de tous les systèmes. C'est-à-dire qu'à la fois, comme en France, on a donc un système de gouvernance qui procède d'un ministère de la Culture, hein, ce qui est quand même assez rare. Le Québec a un ministère de la Culture qui a été créé par Jean Lesage à l'image de celui de Malraux quelques années plus tard. Et c'est ce qui nous permet d'avoir aussi donc, ce sens d'un service public, hein, et d'avoir aussi une certaine garantie financière, parce qu'une partie de notre fonctionnement est assuré par ces subventions annuelles. Et en même temps, donc, nous avons un système privé, comme aux États-Unis, où le musée donc, est dirigé par un conseil d'administration. Un conseil d'administration donc, qui est formé de volontaires, hein, de bénévoles, c'est-à-dire ce ne sont pas donc, des conseils d'administration à profit, à jetons, ce qui nous permet d'avoir un ancrage extrêmement fort avec la société civile et du coup donc vraiment d'incarner les citoyens et d'en faire partie. Et je dois dire que cette position où à la fois donc on répond à un mandat étatique mais aussi on a un mandat citoyen donc nous permet de ne pas perdre de vue d'un côté donc la mission académique mais en même temps donc la mission envers les publics.
Alors, il y a aussi une différence, moi, qui me frappe entre les musées. Alors, je pense que c'est la même chose au Canada qu'aux États-Unis et la France. C'est qu'en France, vous avez dit au départ, il y a obligation de passer un concours, on devient fonctionnaire, etc. Ce qui peut laisser parfois des personnes. Alors, il y a des arrangements, mais aux États-Unis, vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme de conservateur. Vous prenez des personnes les plus compétentes.
Absolument. Souvent, ce sont des personnes qui ont des PhD, des doctorats, des thèses. Ces personnes peuvent avoir des profils extrêmement différents. Ils peuvent venir du monde des médias, en art contemporain, ils peuvent venir du monde du marché de l'art. En fait, ce sont les meilleurs spécialistes qui auront les meilleurs profils pour un poste donné, qui seront embauchés. Également, des profils qui vont avoir des contacts envers les grands donateurs, donc auprès des grands collectionneurs, parce que vous le comprenez, nous voyons le musée comme faisant partie d'un écosystème où tout le monde a son rôle à jouer.
Alors maintenant, on a parlé des acquisitions, du fonctionnement du musée, la politique d'exposition. Pouvez-vous nous en dire un mot? Quelles sont les... Alors, j'ai vu beaucoup de ces expositions du musée de Montréal, on en a parlé sur la Tribune de l'Art. C'était également un champ très varié.
Oui, oui, tout à fait, c'est à l'image du musée.
Ça va de Venise et la musique à Jean-Paul Gaultier, actuellement à Robert Mapplethorpe.
Oui, tout à fait.
Comment est-ce que vous choisissez ces expositions et que vous faites d'ailleurs tourner, que vous envoyez, enfin, ces expositions parfois, comme celle de Jean-Paul Gaultier, que vous produisez et que vous envoyez un peu partout dans le monde? Est-ce que ça vous rapporte de l'argent d'ailleurs, ça?
En fait, ça permet de défrayer le coût des expositions. Donc c'est pas une stratégie donc à but lucratif, c'est au contraire pour pouvoir payer nos ambitions, si je puis dire. Donc finalement on partage donc le coût de ces grandes productions qui sont souvent très onéreux, comme vous le savez. Alors ce qui se passe donc pour la politique, la programmation des expositions, alors donc de mon point de vue, puisque on a la possibilité d'avoir un champ d'action extrêmement large avec une approche très interdisciplinaire ou pluridisciplinaire, donc qui est très marquée, hein, je dirais, depuis l'époque de Pierre Théberge. Et ce qui est très important avec chacun des projets, au-delà de la diversité donc, des sujets que nous autorise donc, la diversité de nos collections, hein, finalement, le musée propose aussi bien des collections de design que d'art contemporain, que d'art ancien. C'est souvent, donc, d'une part, donc, d'avoir une approche académique solide. Donc, c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'exporter à l'international nos contenus. Donc, toujours donc, d'avoir une approche sur une thématique qui sera nouvelle d'un point de vue académique, du point de vue de la recherche. Le musée des Beaux-Arts est un des éditeurs de livres d'art donc les plus importants au Canada, et je crois qu'on a vraiment un service d'édition scientifique assez remarquable, donc je suis très très fière. Et nous mettons toujours un point d'honneur donc à faire des publications solides et avoir ce travail de recherche en amont, mais ce n'est pas suffisant. Je dirais qu'au-delà donc de ces sujets qui peuvent être qui se justifient d'un point de vue de l'histoire de l'art, donc de mon point de vue, donc, il faut aussi que l'innovation donc, se porte, alors bien entendu donc, par l'édition et par la scénographie des expositions, ça j'y crois beaucoup, il y a vraiment, je côté de la direction artistique du musée. Donc il y a un travail extrêmement original qui est fait et qui est reconnu. Mais aussi, donc, c'est la pertinence des sujets et ce que les sujets ont à nous dire à un moment précis qui est le nôtre, donc, qui est celui de l'actualité. Donc je suis vraiment très convaincue qu'au-delà de la spécialité, au-delà de la discipline, nos sujets doivent pouvoir parler et interpeller sur des grands sujets d'actualité. Mapplethorpe, évidemment, c'est la première exposition Mapplethorpe au Canada. Donc il s'agit d'un projet qui concerne un fonds donné par la fondation au Getty et au musée du LACMA à Los Angeles. Donc de ce point de vue de la recherche, c'est un projet très solide et qui se justifie tout à fait. Mais je dirais aussi que c'est un sujet de la manière dont il est présenté à Montréal qui pour moi était important parce qu'il parlait d'une Amérique post-ségrégationniste, donc avec toujours des problèmes de violence et de interraciaux très importants, également avec des questions envers les minorités sexuelles et autres, qui sont malheureusement à la une de nos quotidiens. Et encore une fois, avec l'élection la semaine dernière, on voit que c'est une société qui est très divisée. Donc les divisions que Mapplethorpe a pu montrer et a pu photographier avec le talent qu'il avait, nous parle toujours d'une société très actuelle. Et je vous dirais que Mapplethorpe, c'est assez facile, mais en même temps, toutes sortes de sujets peuvent avoir cette résonance. J'ai travaillé sur Benjamin Constant et l'orientalisme, donc c'est un sujet qui est éminemment actuel du point de vue que l'on se place si on est en France, avec un regard qui est celui d'une société post-coloniale, ou encore quand on se trouve en Amérique, où on va avoir une approche beaucoup plus liée aux interprétations de Saïd, d'Edward Saïd, sur ces questions d'iconographie qui peuvent aussi nous interpeller. Alors c'est vraiment, pour moi, il est très important d'être à la fois très sérieux et solide, d'un point de vue de la recherche dans le champ même de l'histoire de l'art, mais aussi de pouvoir aller au-delà pour ouvrir sur des valeurs qui vont interpeller un plus large public et qui va venir à nous, pas simplement parce qu'ils s'intéressent aux tableaux ou aux sculptures, mais vraiment parce qu'ils vont, avoir d'autres sujets de curiosité. Et c'est la raison pour laquelle le fait de travailler aussi beaucoup avec la musique, dans nos expositions, avec le cinéma, nous permet aussi de pouvoir dépasser le champ disciplinaire pour pouvoir rejoindre des enjeux beaucoup plus généraux. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est absolument essentiel dans ma programmation.
Alors, actuellement,
une programmation qui, en fait, est très engagée, je dirais, d'un point de vue politique, mais au premier sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a une programmation qui essaye d'avoir un impact dans le cadre du débat public.
Je recevais la semaine dernière Catherine Chevilloux qui nous a parlé de l'exposition que vous avez faite en commun à Montréal et qui est maintenant sa quatrième étape, je crois, à Groningen.
Qui ouvre à Groningen, à Groningen demain.
Voilà, demain. Alors, je précise que nous avons enregistré cette émission le jeudi 17 novembre, que nous ne la diffuserons que la semaine suivante. Cette exposition Rodin, par rapport à l'actualité, qu'est-ce que vous voyez comme rapport entre Rodin et l'actualité?
Absolument. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Rodin, bien entendu, l'approche que j'avais choisie pour ce projet, c'est vraiment de replacer Rodin dans le cadre d'un atelier, parce qu'évidemment, il y a toujours cette vision très démiurgique de l'acte de création du génie solitaire, alors que finalement, c'était un sculpteur qui travaillait dans un atelier où s'activaient près d'une centaine de personnes au tournant du siècle. Donc, c'était aussi de remettre à plat et dans la lumière le rôle de tous ces patineurs, fondeurs, praticiens, mouleurs, qui ont aussi tellement contribué à l'innovation de l'œuvre de Rodin. Mais je dirais aussi qu'il y a eu toutes sortes d'autres projets que nous avons développés à Montréal, notamment autour de la diversité corporelle et notamment avec handicap international, parce que donc, les corps de Rodin montrent aussi des corps fragmentés, des corps amputés, des corps brisés, des corps partiels, mais qui ont aussi une esthétique. Et c'est cette esthétique-là, donc cette beauté des corps, quelle qu'elle soit, dans toute leur diversité, donc, qui nous permet d'ouvrir d'autres ateliers et envers une certaine pluralité de la beauté au-delà des stéréotypes communs.
Et c'est pour ça donc que vous avez ouvert, alors qu'on en dise deux mots, c'est vrai que ça, on sort là un petit peu du champ de la tribune de l'art, mais vous avez donc ouvert aussi, en même temps que le pavillon Einstein, un pavillon dont vous allez nous dire un mot, puisque la personne qui l'a financé, qui est un Français, qui vit à Montréal,
oui.
Et donc dites-nous un peu de quoi il s'agit.
Michel de la Chenelière.
Voilà, Michel de la Chenelière, qui est très sympathique, il est Français, on pourrait penser qu'il est Montréalais, parce qu'il donne au musée de Montréal, mais non, il est installé là depuis très longtemps.
Il est arrivé en 68.
Alors expliquez-nous ce projet très rapidement.
Absolument. Alors, donc, parmi nos fidèles donateurs, nous avons Michel de la Chenelière, qui est effectivement donc, un Français qui est venu au Canada s'établir à Montréal en 68 et qui est devenu un éditeur de livres scolaires. Et grâce donc, à son travail éditorial, il a su ramasser donc, une certaine fortune que maintenant il redistribue au Musée des Beaux-Arts de Montréal pour justement soutenir des activités dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de l'art-thérapie. Et grâce à lui, nous avons maintenant 12 ateliers où nous recevons aussi bien des groupes adultes ou enfants et nous avons des records absolus au Canada puisque le musée accueille plus de 300 000 personnes scolaires ou adultes dans le cadre de ses programmes et affiche une croissance de 200% en l'espace de 3 ans. Alors c'est vraiment remarquable. Cela dit, moi je suis très 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 sensible donc, au rôle patrimonial des musées, mais en même temps, il faut savoir se réinventer donc, par rapport à nos collections, comme avec un répertoire qui serait celui de Shakespeare ou de Molière. Donc si on veut le conserver, il faut toujours lui donner une certaine actualité, ce qui n'empêchera pas aux spécialistes de ces répertoires anciens de pouvoir les interpréter et de pouvoir donc faire leurs recherches, mais c'est toujours une façon de les réenchanter, de les revisiter, donc pour les rendre encore plus pertinents aux générations futures. Parce que, et vraiment pour moi c'est important, je considère que les musées, donc parce que nous avons le privilège de travailler sur un temps d'éternité, nous sommes des passeurs de patrimoine, nous recevons, nous enrichissons et nous léguons, et c'est à nous de nous assurer que ces patrimoines-là seront compris, entendus, préservés par les générations futures. C'est pour ça que pour moi, l'éducation est profondément ancrée, enracinée dans le projet patrimonial. C'est absolument le cœur du réacteur.
Alors maintenant, l'avenir du musée. Donc, vous avez fait beaucoup de choses, il en reste, je pense, tout autant à faire, et même peut-être plus. Oui. Quels sont vos projets ? Alors, à la fois vos projets d'exposition, ça c'est à court terme, et vos projets pour l'agrandissement du musée, parce que je crois savoir que vous ne vous arrêterez pas là.
Oui, effectivement. Je pense que quand on voit donc un musée comme un vecteur de progrès social, effectivement, donc, il y a donc, toutes sortes de façons de pouvoir l'enrichir, de pouvoir l'activer au sein d'une communauté ou d'une société. Je fais attention au mot communauté en France parce que c'est un mot qui a différents sens suivant les cultures où l'on vit. Mais je dirais que le projet du musée sera maintenant de pouvoir redéployer les cultures du monde, très important, puisque donc, ce nouveau pavillon pour la paix donc, nous permet de libérer une aile qui va être bientôt consacrée aux cultures du monde. Et,
culture du monde, c'est-à-dire
C'est-à-dire alors, tout ce qui est culture ancienne, à la fois précolombienne, asiatique, orientale, ou encore africaine, mais aussi donc avec par effet de domino, nous allons aussi redéployer donc les arts décoratifs anciens qui en ce moment donc pourraient être davantage mis en valeur. Alors c'est vraiment donc l'ensemble du musée qui va bénéficier de ce nouveau pavillon parce que donc à nouveau donc toutes les collections d'objets notamment donc seront revues. Il y a un projet sur lequel on s'attelle depuis des années, qui est un projet d'édition de nos collections. Nous avons fait un premier catalogue sur l'art canadien québécois, un second catalogue sur nos collections d'art décoratif ancien design, et un troisième, voire un quatrième catalogue donc, qui se consacre à l'art international, culture ancienne, art graphique. Donc c'est un très très gros projet parce que nos collections n'ont jamais fait l'objet de ces recherches scientifiques et c'était vraiment le temps de le faire. Du point de vue de l'expansion même du musée, je crois qu'il y a donc encore des possibilités de pouvoir gagner de l'espace, notamment pour les collections modernes, donc, qui sont un peu à l'étroit. Et puis, l'idée pour moi, ça serait de pouvoir renforcer donc les questions d'accessibilité envers le musée, c'est-à-dire de faire des connexions au métro, un stationnement, parce que nous sommes au centre-ville et avec une croissance de plus d'un million de personnes, on a vraiment des problèmes d'accès. Donc, c'est toujours formidable de pouvoir redéployer ses collections, de pouvoir s'agrandir, mais encore faut-il s'assurer que les gens viennent les voir. Hein. Et donc cette question d'accessibilité est fondamentale. Enfin, donc il y a un autre projet, donc peut-être pour aller intégrer du cinéma d'art et d'essai, donc l'éditorium, parce que malheureusement, comme les bibliothèques et les librairies indépendantes, donc les cinémas indépendants, notamment à Montréal, sont très concurrencés par tout ce qui est disponible donc via les réseaux internet. Et du coup, on a aussi un rôle, je crois, à jouer en termes de diffusion de films d'une certaine qualité, d'un cinéma indépendant, mais aussi donc c'est la même chose avec notre librairie, donc pouvoir diffuser donc des livres d'art.
Je crois avoir compris que la dernière librairie d'art de Montréal vient de fermer. Ce que me disait quelqu'un, une des grandes librairies d'art de Montréal vient de fermer.
Exact, donc c'est vrai qu'on a, et on le voit moins à Paris, parce que Paris donc, est tellement une grande ville, mais donc à Montréal, donc on voit ces librairies indépendantes qui ferment, et bien entendu, je crois qu'on a aussi un rôle pour justement diffuser des contenus qui ne sont pas forcément des contenus de blockbuster ou populaire, ce que je déteste comme mot d'ailleurs. Alors, on a aussi un projet pour pouvoir se développer vers l'art canadien, amérindien, Première Nation et art contemporain avec une nouvelle expansion.
Et les expositions ?
Alors, les expositions, le programme est toujours chargé. Bien entendu, je vous dirais pour les grandes expositions que l'on fait tournée. Donc très prochainement, nous avons un projet Chagall et la musique que certains ont pu voir ici à la fois au Musée de la musique et à Roubaix. La version montréalaise est une version très élargie avec près de 400 œuvres qui sont proposées et notamment avec beaucoup d'œuvres qui viennent des grandes collections américaines, que ce soit le Guggenheim, le Metropolitan, la Gallery de Washington, qui n'étaient pas présents à Paris. Donc une présence de la peinture renforcée et surtout, alors ça c'est formidable, nous avons travaillé à restaurer beaucoup de costumes de scène qui appartenaient au Metropolitan Opera de New York et que nous allons présenter conjointement avec le Los Angeles County Museum, le LACMA. Également, par la suite, pour les auditeurs de la Tribune de l'Art qui s'intéressent plutôt à l'art ancien, donc nous avons un grand projet que j'ai initié sur l'art du western, à la fois la façon dont l'art visuel a influencé et a cristallisé une mythologie du western qui va ensuite migrer vers le cinéma sous une forme très classique avec Ford et ensuite va revenir vers les arts visuels pour proposer une lecture décomplexée d'une Amérique à la fois avec une certaine culture de la violence, culture machiste, une espèce de mythe des origines qui en ce moment pose beaucoup de questions. Un grand projet pluridisciplinaire. Et puis enfin, par la suite, nous avons un projet sur la maison de l'empereur, donc un projet très très passionnant que nous avons développé avec Sylvain Cordier et qui propose...
Sylvain Cordier, autre conservateur français, français à Montréal, qui est arrivé il y a 3 ans, qui a déjà fait un travail assez remarquable.
Formidable, donc un spécialiste de l'époque Empire, qui permet justement de valoriser et d'enrichir la collection que nous avons. Et le projet sur la maison de l'empereur est un projet fait par le musée, qui va ensuite voyager à Richmond, à Kansas City, et ensuite au musée national de Fontainebleau, pour la rouverture de leur nouvelle salle d'exposition, et qui permet d'analyser la façon dont Napoléon a créé cette étiquette et pour pouvoir imposer une dynastie, comme à l'exemple de l'Ancien Régime, avec cette maison de l'empereur qui va organiser et codifier tous les moments de la vie impériale. ce qui évidemment sera un échec, comme tout le monde le sait.
Alors, pour conclure notre entretien, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu par rapport à l'actualité récente, par exemple, ce que vous êtes à Paris, donc ce que vous avez vu à Paris comme exposition qui vous a intéressé, ou comme lecture, ou des expositions d'ailleurs ailleurs dans le monde, quelles sont les deux, trois expositions que vous recommanderiez? C'est difficile toujours parce qu'on ne pense pas forcément, on ne retrouve pas tout de suite comme ça, des beautés, ce qu'on a aimé.
Oui. Ben, en fait, là, tout simplement, je dirais, je suis allée au Petit Palais, donc voir les expositions de Christophe Leribaud. Et donc, évidemment, je suis allée me précipiter pour aller voir Oscar Wilde, que j'ai trouvé extrêmement bien monté. Et l'art de la paix, évidemment, avec le pavillon pour la paix, le sujet m'intéressait. Et je dois dire que j'ai trouvé que cette exposition, ces deux expositions, sont très bien montées parce que ce sont quand même des projets qui présentent beaucoup de manuscrits, qui travaillent à partir de documents diplomatiques ou de documents de littérature. Et c'est pas évident d'exposer ce type d'artefacts dans le cadre d'un musée, mais parce que donc ils sont extrêmement habilement agencés, avec une scénographie donc tout à fait remarquable, et aussi donc avec une articulation thématique extrêmement forte, donc très réfléchie, des chapitres clairs, donc qui finalement donc s'impose d'un point de vue visuel, alors que ces projets pourraient être tout simplement des livres. Moi, quand je choisis un projet d'exposition, je me demande toujours, est-ce que c'est un livre, est-ce que c'est un article, est-ce que c'est un reportage, ou est-ce que c'est une exposition? Parce qu'évidemment, la nature des objets que l'on présente est toujours au cœur du processus d'exposition. Et dans ces deux cas, je dois dire que le travail a été très, très brillamment relevé.
Alors, je ne sais pas si on aura l'occasion, le temps de parler d'exposition sur la paix. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on voit beaucoup d'œuvres, on voit peu.
Absolument.
J'ai vu un Blondel du Louvre que je crois n'avoir jamais vu.
Oui, absolument.
Un grand tableau qui représente la paix, d'ailleurs, je crois, par Marie-Joseph Blondel, que je n'ai pas vu, et d'autres œuvres sorties des réserves et qui mériteraient largement d'être exposées.
Exactement. Alors, on parlait donc de ce travail académique qui, à la fois, donc, est extrêmement solide, puisqu'on a beaucoup des objets que l'on voit, et notamment des documents diplomatiques, sont tout simplement invisibles, donc sont pour la première fois présentés au public. Mais en même temps, donc, il y a quand même un grand sujet, donc, qui est donc cet art de la paix, puisqu'on parle beaucoup de la guerre, et qui s'incarne par ses alliances, par ses grands portraits, mais aussi donc, par la fabrication d'une certaine profession, la diplomatie, et qui est au cœur donc, de notre actualité au quotidien. Et je trouve que c'est typiquement le genre de projet qui incarne parfaitement donc, cette tension dynamique entre la nécessité d'être scientifiquement novateur et en même temps donc, d'avoir un projet qui va rejoindre de plus large public et des valeurs qui dépassent le cadre de l'histoire de l'art.
Merci beaucoup Nathalie Bondil pour avoir partagé un peu plus d'une heure avec nous. Et donc rendez-vous pour les auditeurs de la semaine de l'art, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt.
Merci beaucoup, Didier Ritner.